L'Espagne a annoncé qu'elle boycottera la prochaine édition de l'Eurovision si Israël est autorisé à y participer. Cette décision a été confirmée par la télévision publique espagnole RTVE, chargée de sélectionner l'artiste et la chanson qui représente l'Espagne. Et nous sommes en ligne avec Elisabeth Chemla. Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Elisabeth, vous connaissez bien l'Espagne, vous y avez été correspondante de presse pendant des années, vous avez vécu à Madrid.
Et oui, à Madrid, c'est... un peu partout.
Ah oui,
en Espagne. Voilà,
donc vous connaissez
oui,
très bien l'Espagne. Mais il y a quelque chose, vous avez dirigé la rédaction du Nouvel Obs et ensuite Proche-Orient.info, que vous avez fondé, il y a quelque chose que moi par exemple, que je, qui traite ces questions-là depuis de nombreuses années, je comprends pas, c'est la virulence de l'Espagne vis-à-vis d'Israël. Et en général, on me répond, mais tu sais pas que c'est l'un des pays les plus antisémites, les plus vieux de la planète. Mais ça doit jouer, mais je crois qu'on a besoin un peu de votre expertise, parce que aller jusqu'à dire, s'ils viennent, je viens pas, là on est plus, c'est plus seulement je demande l'exclusion ou le boycott d'Israël, les Espagnols disent, s'ils viennent, je viens pas. Quand, par exemple, il y a un tour d'Espagne qui est une des vitrines économiques, sportives, culturelles, les plus importantes de l'Espagne, c'est le Tour de France en Espagne. Normalement, on attend du Premier ministre, une fois que cet événement est saboté par des manifestations pro-palestiniennes, de défendre son pays. Pas du tout. Il dit, génial, continuez, foutez en l'air. Comme si on voyait, par exemple, Macron dire, vous avez bien fait, foutez en l'air le Tour de France. Pareil. Alors, Elisabeth, donc, puisque vous connaissez bien l'Espagne, pour y avoir vécu longtemps en tant que journaliste, donc en tant qu'observatrice, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ?
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ?
La question à $1 million.
Oui, absolument, absolument. Écoutez, je reprends ce que vous avez dit, vous me coupez si c'est trop long. L'Espagne, pays antisémite, je crois qu'il est presque inutile de rappeler qu'à l'exception de l'âge d'or andalou, pendant 7 siècles de domination musulmane, avec des hauts et des bas, et toujours des juifs très en cours et ayant la confiance des responsables, il y a eu évidemment une politique anti-juive. Ensuite, nous avons eu les rois catholiques, 1492, ça s'appelle une épuration ethnique. Et quand on oblige à la conversion et qu'on fait brûler sur le bûcher pendant une inquisition qui a duré de 1478 à 1834, ça peut-être s'appeler une tentative de génocide.
Ah oui.
Donc,
400
ans. Voilà, 400 ans. Pour 1492, le décret de l'Alhambra qui avait donc expulsé les Juifs qui refusaient de se convertir hors d'Espagne, je répète, épuration ethnique, ne prend fin officiellement, c'est une chose que je crois le public ne sait pas, que en 1992,
non.
C'est-à-dire 500 ans après, grâce au roi Juan Carlos et au pardon qu'il a demandé à la grande synagogue de Madrid, aux Juifs, pour ce que l'Espagne, et notamment l'Espagne catholique, bien sûr, leur avait fait subir. Alors, une fois que j'ai dit ça, qui est l'Espagne, mais l'Espagne qui, depuis Franco, a quand même eu une extraordinaire évolution vers la démocratie et qui est aujourd'hui un grand pays européen. Qu'est-ce qui se passe avec Pedro Sanchez ? Parce qu'en fait, il joue un rôle majeur là-dessus. Vous avez rappelé quelques-unes de ses déclarations ou décisions, dont l'une, la dernière en date, l'Eurovision. Je me permets d'ajouter celle qui me paraît la plus grave et de loin, puisque nous renouons là, d'une certaine façon, au moins symboliquement, avec le génocide des Juifs. C'est sa déclaration concernant le fait que, hélas, l'Espagne, n'ayant ni pétrole, ni porte-avions, ni nucléaire, ne peut pas mettre un terme à la guerre à Gaza. Ce qui, en clair, veut dire, en creux, si j'ose dire, veut dire en creux que si l'Espagne le pouvait...
Si je l'avais, je l'aurais utilisé.
En tous les cas, j'aurais menacé. Bon, il y a quand même peu de dirigeants sur la planète qui osent faire une chose pareille. Pour moi, Pedro Sanchez, Vous avez remarqué d'ailleurs que cette déclaration est passée comme une lettre à la poste du temps où elle marchait très bien, que Pedro Sanchez n'a été remis à sa place et critiqué à peu près par personne parmi les dirigeants européens. Moi, en tous les cas, j'ai tout suivi, je n'ai rien entendu. Et je trouve que on devrait proposer qu'il soit présenté devant la Cour pénale internationale, la même qui a condamné Netanyahou, parce que quand même, oser employer contre un État souverain l'arme de nucléaire, c'est-à-dire l'invocation du génocide, me paraît être la chose la plus grave, pratiquement, qu'un chef d'État puisse faire aujourd'hui, en dehors des mesures qu'il a prises concernant désormais l'impossibilité de survol aérien, enfin tout ce que vous savez. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, Pedro Sanchez? Ouais. Parce que c'est ce qui est extraordinaire.
Il est d'extrême gauche, par exemple?
Oui, bien sûr, il est vraiment de gauche-gauche. Mais ce qui est extraordinaire, et là aussi je crois que le public ne le sait pas trop, c'est qu'en réalité, il est chef du gouvernement sans aucune majorité. Il a 152 députés avec son conglomérat sur 350 au Cortés, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale espagnole, je dis bien 152 députés sur 350, et il a à peine 93 sénateurs sur 266. Bon, vous imaginez bien que ça, c'est d'ailleurs très intéressant, ça prouve les impossibilités dans lesquelles se trouve un régime à diriger un pays en fonction réellement de la réalité sociologique et politique du pays. Sanchez, pour arriver à ça, qui est lui-même un homme qui est tout à fait dans le décolonialisme, l'intersectionnalité, tout ce que nous savons.
En France, ça serait quelque chose entre LFI et écolo?
Tout à fait. Ce serait quelque chose comme ça.
C'est pas Hollande.
Non, c'est pas du tout Hollande. Pas du tout, bien qu'il soit Sanchez, président de l'Internationale socialiste. Non, c'est pas du tout la social-démocratie. D'autant plus que pour arriver à gouverner, a formé un gouvernement, il s'est allié, et là je vais beaucoup insister sur ce terreau et ce terrain précis, les deux à la fois, il s'est allié avec le pire de ce que l'Espagne a connu en matière de terrorisme contre l'État central, c'est-à-dire avec les Basques, avec les successeurs de l'ETA, qui avaient même, il y a l'année dernière, lors d'élections locales, qui avaient parmi leurs candidats 7 anciens terroristes.
Mais eux aussi, car c'est des dingues, les Basques. Parce que moi, j'ai vu des images, par exemple,
le lancement. Franchement. Mais tout à fait. Mais il est allié avec des dingues. Il se comporte lui-même absolument comme un dingue dans cette hystérie, antisémite, car elle est évidemment antisémite. Et pourquoi aussi cela? Parce que ce qu'il faut bien comprendre à propos de l'Espagne, c'est que le problème majeur de l'Espagne, c'est celui des autonomies. Et là-dessus, qui est un point absolument capital, que nous ne pouvons pas comprendre chez nous, dans un pays aussi centralisé que le nôtre, bien entendu, c'est qu'il se situe exactement dans la lignée de tous ces nationalismes. Alors, ceci l'amène à être du côté de ce qu'il appelle le bien contre le mal, y compris à propos, par exemple, du Pays Basque, des Catalans, où il a eu des actions qui ont été très controversées, et il est totalement sur une ligne, en effet, qui est à mi-chemin entre LFI et les écolos, comme vous le disiez très justement. Tout ça, en même temps, j'ai trouvé une très très bonne phrase, d'ailleurs, en lisant quelques articles sur tout cela, d'un sociologue qui dit de lui que il croit à une vérité instrumentale. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que Israël, Gaza, les Palestiniens, avec évidemment toute la jeunesse espagnole qui est pro-palestinienne, hein, presque pratiquement, je ne dis pas à 100%, mais à 90%, comme cela se passe absolument partout, à Sciences Po, sur nos campus, aux États-Unis, dans tous les pays européens. Et donc, à propos de Sanchez, puisque je reviens à lui, il a instrumentalisé Israël et Gaza dans une situation politique très difficile que j'ai tenté d'expliquer, plus les accusations de corruption à son égard, mais surtout à l'égard de sa femme, qui sont un très gros sujet en Espagne. Il a instrumentalisé Israël et Gaza et les Palestiniens pour non seulement sauver sa peau, mais redonner son blason et se redonner de la force pour les prochaines élections.
Et ça marche ?
Alors que l'opposition... Et ça marche, oui, ça marche parce que en face, il a une opposition qui est soit d'extrême droite comme Vox, soit le Partido Popular qui est, lui, une droite plus classique, plus conventionnelle, qui certes représente la majorité silencieuse, si j'ose dire, mais qui n'arrive pas et qui n'ont pas les moyens institutionnels et politiques pour l'instant de l'emporter sur lui. Et il s'appuie sur cette lame de fond qui est ce sentiment d'empathie profonde pour les Palestiniens, ce qui fait que, exactement comme ça peut se passer ailleurs, ou même en Espagne, à propos du Hamas qui utilise cela, il l'utilise lui aussi pour se conforter et se renforcer.
Parce qu'on parlait des déclarations vraiment très hostiles, c'est-à-dire... comment dire, c'est parce qu'on a d'autres États qui condamnent Israël, mais les Espagnols, je sais pas, il y a quelque chose de particulier quand les... Ah, il y a Laurent Ganassier qui veut dire quelque chose, il vient, il interview. Oui. Bonsoir Laurent.
Non, belliqueux, je disais.
Ah, belliqueuse, merci Laurent. Laurent qu'on va retrouver dans une minute pour nous parler alors du boycott du cinéma israélien. Mais je vais donner un autre exemple. Lorsque des gamins se font expulser manu militari avec des vidéos très violentes, qu'on demande aux gosses d'ailleurs de donner leur téléphone pour qu'on efface les vidéos, on se croit dans l'Espagne du franquiste, c'est-à-dire, et que d'ailleurs l'animatrice dit mais vous touchez pas les téléphones des gosses, on est en 2024 à l'époque, c'est leur appareil, ça leur appartient, vous n'avez pas à confisquer des appareils. En plus de ça, pour effacer les vidéos, on voit vos violences. Bref, tout le monde se souvient de l'histoire. Mais le ministre espagnol de l'Intérieur a dit « Bravo les policiers, vous n'allez pas supporter des gamins, il dit que c'est des Israéliens comme ça, il se dit que ça passerait mieux à la télé. » Mais on n'a jamais vu ça. Normalement...
Non, je suis d'accord avec vous.
On n'a jamais vu ça. Normalement, un ministre de l'Intérieur va dire « Bon, écoutez, ils ont peut-être chahuté, mais c'est des enfants. » Et puis voilà, l'histoire, elle finit comme ça. Lui, non, il dit « Bravo. »
Mais vous avez d'autres ministres qui, d'ailleurs, peuvent avoir des responsabilités au sein des différents mouvements de ce conglomérat dont j'ai parlé, qui ont fait des déclarations, pas à propos de Welling, mais d'Israël, qui sont d'une gravité sans nom. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais en ce qui concerne l'Espagne, je pèse vraiment mes mots. Et je sais à quel point ils ont une importance. Mais quand le type, excusez-moi de l'appeler ainsi, c'est pas très correct, c'est pas journalistique. Quand le chef du gouvernement, il se conduit d'ailleurs, puisque vous parlez des États-Unis, il se conduit d'ailleurs un peu comme un Trump de gauche. Hein, c'est très intéressant aussi à souligner. Donc, quand du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, c'est que quand un homme qui est un chef de gouvernement, en l'occurrence un chef d'État, tient des propos comme il vient de tenir sur le nucléaire, qui s'accompagne de tout le reste, je dois dire que c'est celui qui, et j'emploie, vous le savez Bernard, jamais cette comparaison, je me dis mais si ce type avait les moyens, il ferait comme Hitler, là. Voilà.
Il utiliserait la bombe, il la jetterait sur Israël.
Je ne sais pas, mais je veux dire, il me paraît être de cette sorte de violence folle. Voilà. Wow.
Ouais, ça fait pas... Bon, on n'ira peut-être pas passer nos vacances là-bas, je ne sais pas.
Je sais pas.
Allez, Elisabeth Chimla, merci pour cet éclairage, pour ces quelques mots sur Radio Shalom. Merci à vous et
merci,
bonsoir.
Merci Bernard, bonsoir, au revoir.